c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un oiseau ? Un pigeon ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'autruche, l'émission qui vous fait sortir la tête du sable. Piloté par les étudiantes et étudiants en master journalisme à l'ESJ Pro et à l'université Paul Valéry, je suis Renan.
Je suis Louis et nous sommes vos animateurs du jour. Dans cette émission, nous allons parler du monde des jeux vidéo, de son actualité, mais aussi de ce qui se passe quand on travaille dans un studio. Depuis le 13 janvier, le studio Dontnod appelle à une grève reconductible. Cette grève, qui est pour la première fois un appel national, fait suite aux manifestations commencées en 2024 par différents studios, avec comme revendication de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et mettre fin aux différents plans de licenciement. Le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo soutient aussi des causes comme l'inclusion, l'égalité femmes-hommes et la diversité, des thèmes qui font régulièrement l'actualité dans la communauté du jeu vidéo et du stream. Le STJV, donc syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, a de son côté annoncé une grève nationale le 13 février prochain, ce qui est également une première en France pour le secteur.
Pour en parler, nous sommes avec Clément Montigny, délégué syndical du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, STJV, syndicat créé en 2017. Bonjour.
Bonjour.
Et Julie, militante au STJV, qui participe aux négociations en cours à Ubisoft Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Dans quelques minutes, nous retrouverons Rose, qui nous emmène dans le studio montpelliérain Exalted Studio pour comprendre ce qui se cache derrière la création d'un jeu vidéo. Puis Yeltaz, qui, dans sa chronique, nous racontera comment économie virtuelle et économie réelle se sont recoupées dans le jeu vidéo Run Escape.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Pour commencer, Clément, peut-on dire que les conditions de travail dans les studios de développement de jeux vidéo se sont durcies au fil du temps ?
Durci, c'est compliqué de dire ça. On ne peut pas dire qu'elle soit bonne aujourd'hui, en tout cas. Il y a eu une époque où le droit du travail était encore moins respecté, où on avait un nombre d'heures largement au-dessus du nombre légal hebdomadaire, où les travailleuses et travailleurs dormaient sur place. C'était il y a plus d'une dizaine, une vingtaine d'années, et où c'était la norme. C'est aussi pour ça qu'on s'est constitué en tant que syndicat, pour combattre ce genre de mode de production. Aujourd'hui, pour autant, les conditions, elles ne sont pas spécialement bonnes. Si je prends rien que le studio où justement dont Julie et moi sommes membres à Ubisoft Montpellier, en ce moment il y a une grande dégradation de la santé des travailleuses et travailleurs. Du côté des représentantes et représentants du personnel, on a été beaucoup saisis ces deux derniers mois. Le moral n'est vraiment pas au beau fixe. Et donc il y a différents cas, différentes choses, que ce soit des maladies pro ou des pathologies, plus ce qu'on appelle les risques psychosociaux, burn-out, bore-out sur certains projets, perte de sens.
Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portaient les revendications des salariés de Dontnod ?
Dans le cas de Dontnod, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des alertes qui ont été levées, une lettre ouverte qui a été publiée en début d'année 2024 par les représentants et représentants du personnel, par le STJV de Dontnod, qui listait une série de problèmes dans le fonctionnement de l'entreprise. Ils et elles n'ont pas été écoutés. Plusieurs mois plus tard, il me semble en octobre ou en novembre, leur direction est revenue vers les pour leur parler, leur dire bonjour, on veut négocier un plan de licenciement. Ce qui était inacceptable de leur côté, c'est ce qui a déclenché ce mouvement de lutte.
D'accord.
Et mouvement de lutte qui se poursuit encore aujourd'hui. On leur envoie beaucoup de force. Et vous l'avez mentionné, il y a eu une grève reconductible le 13 janvier dernier qui a duré une semaine et avec une forte mobilisation. On leur envoie beaucoup de force.
D'accord. Et vous, Julie, est-ce que vous portez le même regard sur la situation ?
Bah, en fait, oui, plutôt. Alors évidemment, moi, je suis un peu moins investi que Clément sur les notions qui sont un petit peu plus larges, qui portent sur d'autres studios. Donc, je suis plus local à Ubisoft Montpellier. Mais effectivement, on partage en fait finalement tout un tas de problématiques communes. Clément a mentionné les risques psychosociaux. C'est évidemment quelque chose qui est très très important aujourd'hui et qui nous frappe de plein fouet dans notre studio. Mais il y a aussi, bien sûr, le risque d'un plan social qui serait aussi mis en place à Ubisoft. On a vu que les difficultés financières de la boîte faisaient parfois la une des journaux. Et bien sûr, c'est quelque chose aussi dont on se méfie.
Ok. C'est lors de la conférence de presse du STJV, le 16 janvier, que cet appel à la grève nationale a été lancé. Clément, comment s'est structuré ce mouvement syndical ?
Bah écoutez, vous nous avez parlé des situations d'Ontnod et d'Ubisoft, on pourrait aussi, et vous avez dit qu'il y avait eu d'autres mouvements sociaux, on peut citer Kiloton notamment, et Spiders, qui ont aussi fait grève l'année dernière, et j'en oublie probablement d'autres. Comment ça s'est structuré ? C'est très simple, c'est que ça fait 8 ans qu'on existe cette année, et au bout d'un moment, après 8 ans, ça fait même, me semble-t-il, 5 ans, 6 ans qu'on a des représentations syndicales dans différentes entreprises, ben on a un certain nombre de constats partagés. Gilles l'a très bien dit, entre les luttes d'Ubisoft, de Dontnod, mais aussi de Kiloton, de Spiders, il y a des constats communs qui ont été posés. Et c'est ça qui a donné lieu à ce mouvement national qui s'appuie sur un certain nombre de revendications concrètes qui s'applique à l'ensemble des studios en fait et à l'ensemble de notre industrie, parce que ce qui est mal fait quelque part par notre patronat est mal fait ailleurs aussi.
D'accord. Est-ce que au sein des employés de ces différentes entreprises, il y aurait beaucoup de personnes syndiquées ?
On ne va pas vous donner de chiffres, mais on peut vous dire que en 8 ans, on a bien progressé et qu'on est passé d'une industrie qui n'était pas du tout syndiquée à une industrie avec un bon taux de syndicalisation. Par rapport à la norme française qui reste basse, on le déplore.
D'accord. Clément, est-ce que d'autres actions vont être mises en place plus tard ?
Bien sûr. Ça, c'est un point d'étape, ce mouvement-là. Mais la lutte, elle va continuer derrière. Là, on espère frapper un grand coup le 13 février prochain. Et ensuite, on vous invite à rester attentif et attentif aux suites que cela va donner.
Je dirais même pour ajouter qu'effectivement, en octobre, il y avait eu une grève nationale juste pour Ubisoft cette fois-ci, et qu'effectivement, il avait déjà été mentionné que ce n'était pas la fin d'un mouvement, c'était au contraire bien le début. Aujourd'hui, on est un peu dans le même cas, mais à l'échelle de l'industrie.
Tant que les conflits sociaux perdureront, on ne s'interdit rien, on ne s'interdit certainement pas de relancer des mouvements de grève d'ampleur.
D'accord, bah, il faut. Donc, parler des conditions de travail, c'est également aborder la question de l'égalité professionnelle, notamment de l'égalité femmes-hommes.
En 2023, l'association française Women in Game recense seulement 24% de femmes employées dans les studios de développement, une augmentation de 2% en 2 ans. De même, on compte seulement 11% de femmes à la direction des entreprises du jeu vidéo, alors qu'elles représentent 40%, tous secteurs confondus selon l'URSSAF. Julie, selon ton expérience, est-ce qu'il est facile de se faire une place et de s'y sentir légitime ?
Je pense que c'est difficile à dire de savoir si c'est facile de se faire une place. Je pense que de toute façon, c'est dur partout en tant que femme, peu importe l'industrie. C'est sûr qu'il y a des différences quand même dans le jeu vidéo où on constate que malgré qu'aujourd'hui, d'après les chiffres de la FJV, on a quand même presque 50% de joueurs qui sont des femmes en fait en France, donc de joueuses. Et pourtant, on ne retrouve pas du tout cette proportionnalité dans les industries. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on est plutôt sur environ 20-25% dans les entreprises du jeu vidéo. Donc effectivement, ça reste dur et difficile de se faire une place. Et en plus, comme tu l'as très bien mentionné, il y a effectivement un problème sur la représentation des femmes dans les équipes directives, où on se retrouve avec des projets qui sont très majoritairement dirigés par des hommes.
Et ça, c'est un véritable problème de fond. Vous avez mentionné les chiffres de Women in Games, on peut aussi vous donner les nôtres puisqu'on a fait un baromètre en 2022 où nous on avait 72% du coup des travailleuses qui étaient des hommes, 23% des femmes, 5% de non-binaires. Et par contre, si on prend l'entreprise dont on vient, Ubisoft Montpellier, on va pas vous donner de chiffres exacts, mais on peut vous dire qu'on est en dessous des 20%. Et si vous regardez, donc il existe des mesures gouvernementales, l'index d'égalité professionnelle notamment, vous pouvez le trouver sur société.com, c'est public. Je peux vous dire qu'en 2023, il y avait quelques problèmes sur les écarts de salaire, un petit peu qui étaient relevés, et zéro femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. On leur avait posé à l'époque la question, il fallait aller jusqu'à la 50e personne à peu près pour tomber sur une femme. Pour remettre ça en perspective, on est 470 à Ubisoft Montpellier.
Justement, Clément, en tant que membre du STJV, est-ce que vous avez, avez-vous des signalements de discrimination à l'embauche ou d'inégalité de salaire ?
Sur les inégalités de salaire, oui. Sur la discrimination à l'embauche, c'est plus compliqué. Alors, la question porte spécifiquement sur Ubisoft ou de manière générale dans l'industrie ? Parce que de manière générale dans l'industrie, oui, on a des retours. Et les inégalités salariales, bien évidemment, elles se manifestent de différentes manières. Des fois, à poste égal dans une entreprise, vous allez avoir des inégalités très fortes, parfois liées au genre, parfois liées à d'autres choses, pas que le genre. Mais des fois, c'est encore plus pervers que ça. Julie l'a mentionné tout à l'heure, elle expliquait que vous aviez les équipes de direction, ce qu'on appelle aussi, dans notre jargon, les core teams, qui étaient principalement masculines. Plus que ça, il y a un petit entre-soi à la tête des studios, dans les équipes de direction, et cet entre-soi, il est hostile à tout ce qui n'est pas un mec cis.
Une question pour vous deux. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une faible présence des femmes dans le secteur, qu'elles soient dirigeantes ou pas ?
Je pense que c'est une très vaste question qu'on peut appliquer de manière plus générale à tout le milieu de la technologie, parce que c'est vrai que c'est un combat qui est mené at large, on va dire, sur l'informatique en général. Alors, le jeu vidéo, c'est pas que de l'informatique, mais ça, je trouve, reprend les mêmes problématiques. Et effectivement, il y a une difficulté, déjà parce que c'est pas un milieu attirant pour les femmes, tout simplement. Quand on voit les cas de harcèlement qui sont mis en avant, on pense bien sûr au procès de trois personnes, trois cadres dirigeants d'Ubisoft, qui aura lieu dans un mois, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Et où effectivement on parle de harcèlement, on parle de harcèlement moral et on parle de harcèlement sexuel. Donc forcément, c'est difficile de convaincre quand on a ces conditions-là. Et après, bien sûr, on voit que c'est un milieu qui est peu féminin, donc on a envie d'encourager ça, mais c'est difficile.
Et justement, comme vous parliez de ce procès, je fais un petit rappel. En 2020, l'entreprise française, donc Ubisoft, à l'origine de la franchise comme Assassin's Creed, elle a été confrontée à de nombreuses accusations, donc comme vous disiez, au sein des équipes dirigeantes pour des propos et des gestes inappropriés. En 2021, c'est le géant américain Activision Blizzard qui faisait l'objet des mêmes accusations, avec une plainte de l'État de Californie qui mentionnait en plus une culture d'entreprise favorable au comportement inapproprié envers les femmes et des cas non traités par la direction. Donc Julie, est-ce que pour vous, il y a des mesures prises par les entreprises, c'est-à-dire le renvoi des cadres ou à l'origine de ces problèmes ?
Le renvoi des cadres, évidemment, c'est une bonne chose. On va pas s'en plaindre, puisque y a des fautifs, il faut les condamner, il faut qu'ils soient sanctionnés. Cependant, on constate bien que c'est inefficace au long terme pour endiguer complètement le problème. On se retrouve avec des personnes qui continuent d'agir et qui sont sanctionnées de manière un peu inconnue. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les informations là-dessus parce que le process de signalement est très opaque. On se retrouve face à des gens qui ont des problèmes, qui le signalent et qui ne sont pas forcément écoutés ou qui n'ont pas moyen de savoir si finalement ils vont encore avoir à faire face à leurs agresseurs. Donc c'est très incomplet en fait. C'est une première étape, mais c'est très incomplet.
Et pour rajouter là-dessus, pire que ça, donc déjà, effectivement, le droit du travail est plus ou moins protecteur là-dessus, hein, dans la plupart des types d'entreprises, et dans le jeu vidéo, on est souvent malheureusement au minimum légal. Et pire que ça, dans un certain nombre d'entreprises, en fait, les représentants du personnel ne sont pas du tout associés à ces processus, ce sont des choses qui sont uniquement en vase clos RH. Quand vous abordez le sujet dans les négociations, les RH se braquent, disent c'est notre boulot de faire ça, oui d'accord, mais on a pu constater à un certain nombre de reprises l'inefficacité de ce processus quand vous impliquez pas de la représentation des salariés. Et c'est un véritable problème, qu'il n'y ait aucun contrôle démocratique dessus, qu'il n'y ait aucun contrôle externe dessus, en fait. Et dernier point, si je peux l'ajouter, c'est que très souvent aussi, je ne dis pas d'opacité, mais même, vous avez des processus de signalement anti-harcèlement où les victimes, quand elles portent plainte, ne sont pas informées de l'aboutissement de leur processus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différents types de sanctions, donc il y en a certaines qui sont visibles, mise à pied, licenciement pour faute, mais des fois c'est juste des rappels au règlement, et dans ce cas-là, il n'est même pas dit que la victime soit prévenue. Et c'est un véritable problème. Comment voulez-vous vous sentir en sécurité dans ces conditions ?
Et en tant que syndicat ou association, pouvez-vous jouer un rôle actif pour dénoncer et résoudre ces cas de harcèlement au sein justement des entreprises ?
Bien évidemment, c'est notre rôle. Ça fait partie de nos missions. C'est des questions qu'on porte en négociation, hors des négociations, dans le cadre de ce qu'on appelle les conseils économiques et sociaux, en gros l'instance de représentation des salariés en entreprise, et puis même nationalement, avec nos différents communiqués, c'est un véritable problème de fond, et on se bat contre cela.
Et du coup, ces questions sur l'égalité femmes-hommes font également écho à celles sur la diversité.
Oui, tout à fait. Dans les jeux, on retrouve de plus en plus de personnages issus de minorités, comme par exemple dans le prochain hit d'Ubisoft Assassin's Creed Shadow, où l'on pourra incarner Yasuke, le premier samouraï noir de l'histoire. Cependant, le jeu a fait l'objet d'une pétition au Japon qui a récolté près de 100 000 signatures. Ces signataires considèrent que le choix de Yasuke comme protagoniste est une insulte à la culture japonaise. Justement, Clément, mis à part cette polémique, on voit qu'il y a une réelle volonté pour les studios de diversifier leur représentation graphique, mais qu'en est-il derrière l'écran ?
Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Pendant très longtemps, il y avait de gros problèmes dans la création de jeux vidéo, si vous reprenez les jeux des années 90-2000, et de représentation, donc c'est un véritable sujet. Maintenant, il y a différentes manières de le faire. C'est très bien qu'il y ait beaucoup plus de diversité. Dans les jeux, c'est quelque chose que nous on va défendre et pas du tout condamner. Par contre, c'est très important de bien le faire, de bien l'amener. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, en culturalisation, en sensitivity readers, etc. Ce sont des métiers et il est très important du coup de le faire avec les personnes concernées, en du coup ouvrant plus aussi, puisque c'est compliqué de parler de vécus différents quand vous avez une base qui reste principalement des hommes blancs, cis, hétéros. Voilà, c'est pas toujours évident de bien traiter ces sujets-là. Mais au-delà de ça, même, il faut que ce soit un véritable engagement des studios et pas juste de l'affichage, parce que parfois, on craint aussi que ce soit juste superficiel pour des raisons marketing, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc c'est très important de bien le traiter et de le faire au fond.
Dans le cas d'Ubisoft, on a même l'exemple assez précis, puisqu'il y avait eu un communiqué de presse de notre PDG Yves Guillemot, qui avait justement sous-entendu que non, Ubisoft n'avait pas d'agenda, n'avait pas d'objectif politique. Évidemment, nous, c'est quelque chose qu'on déplore, parce que justement, le fait est que ça laisse derrière tout un tas de marge à des gens pour dire, bon, vous voyez, si Ubisoft eux-mêmes le disent qu'ils n'ont pas d'agenda politique, c'est donc...
Après, ce qui est politique, c'est toujours quand c'est pas un mec blanc qui est dans le jeu vidéo, hein, qu'on soit très clair. Par contre, donc, pour mettre ça de côté, la question de est-ce qu'une œuvre vidéoludique, est-ce qu'un jeu vidéo est politique, franchement, toutes les œuvres de toute la création l'est. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont très longtemps fait l'autruche, puisque c'est le nom de l'émission avec ça, qui refusaient de le voir, et même jusqu'à Ubisoft très récemment, on en parle encore, faisait un jeu qui rappelait notamment Cuba sur Far Cry 6 et pendant très longtemps disait non, notre jeu sur un soulèvement dans un pays dictatorial n'est pas du tout politique jusqu'à ce qu'ils aient été obligés de l'admettre. Donc oui, toute œuvre a un fond politique et on ne peut pas le contourner. Et du coup, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'est constitué, parce qu'on estime qu'en tant que travailleuses et travailleurs, on est légitime à interroger les récits que portent les jeux qu'on fait. Et ça ne va pas être la même chose quand, comme vous l'avez dit, on essaie de mettre en avant des vécus différents que ceux qu'on considère être la norme habituellement. Et quand, par exemple, on fait un jeu où vous jouez un soldat américain qui va apporter la démocratie dans un pays qui n'a rien demandé.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion qui ont été mises en place par les différents studios, par certains studios ?
Ça va dépendre en fait. Ça va dépendre. On a déjà un petit peu abordé la question. En réalité, pour nous, il y a un vrai sujet au niveau des carrières, au niveau de la représentation, au niveau de l'accession, de l'accessibilité des postes de direction, de gouvernance, au niveau des plafonds de verre qu'on constate, notamment pour les femmes, mais pas que. Et à côté de ça, il est très important que les politiques, comme on dit, une diversité et une inclusion, elles aillent au fond des choses et ce ne soit pas juste de l'affichage, juste potentiellement quelque chose pour faire semblant. Pour nous, il faut aller au fond du problème.
Et du coup, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Julie.
Non, Clément, il a assez bien résumé en fait, de toute façon, le propos. Effectivement, il y a du chemin encore à parcourir. Et nous, on milite clairement pour que ce chemin il soit fait le plus rapidement possible.
Et donc avec tous les problèmes que nous venons d'aborder, le jeu vidéo perd un peu cette image de paradis. Mais qu'en est-il de son financement? Je vous propose maintenant d'écouter le reportage de Rose, co-animatrice de la première émission de L'Autruche, à Exalted Studio.
Bonjour Renan, bonjour Louis. Alors oui, je me suis rendue à Exalted Studio, un studio de jeux vidéo à Montpellier. J'ai pu rencontrer leur équipe qui m'a parlé des enjeux économiques autour de la production d'un jeu vidéo. Et vous allez l'entendre, ça coûte cher. Une fois la manette entre les mains, il en faut du courage pour ne pas craquer face à la mignonnerie des personnages du jeu en cours de conception. Laurent Cobel, le directeur de production, nous en parle.
Il s'agit de Big Hammett & Rose, c'est un cinématique beat'em up, donc c'est un jeu où on avance et on tape. C'est basé sur notre IP Big Hammett & Rose, donc des petits chevaliers trop mignons. La particularité du jeu, c'est que il est rafraîchissant, facile d'accès, une prise en main immédiate, beaucoup de fun, et surtout toute l'aventure peut se jouer en coop, à deux.
Une coopération que l'on ressent dans ce studio à l'ambiance studieuse.
Pour ce jeu-là, on a eu à peu près 6-7 mois pour produire ce qu'on appelle une vertical slice, donc une tranche verticale. C'est un prototype du jeu. Et pour nous, ça a été une grosse partie de la pré-prod, en fait. Et après, on a 19 mois de production.
Une production courte comparée à la fourchette habituelle qui oscille entre 3 et 5 ans. Une production qui aura nécessité des moyens humains.
Au studio, on est 8 employés et après, on travaille aussi avec d'autres personnes à l'extérieur en freelance. Et du coup, il faut compter entre 12 et 15 personnes.
Entre les figurines iconiques de jeux emblématiques, les différents corps de métier s'affairent.
Je m'appelle Nolwenn Armand, du coup je suis associée de producteur, donc en gros dans la gestion de projet chez Exalted Studio, depuis maintenant 2 mois. J'ai identifié 5 grands pôles de métier, donc la partie programmation de développement, la partie artistique, la partie animation, la partie son et la partie gestion de projet.
Financièrement, qu'est-ce que ça représente, une telle production?
Il faut compter entre 1,5 million et 2 millions. En tout cas, pour notre prod à nous, je pense que tout compris, on est plus proche des 2 millions. Nous, on a aussi un financement avec un éditeur, mais après, on va aller chercher des financements publics.
Un budget important, mais pour survivre, les studios peuvent bénéficier d'aides, comme celle de la Banque publique d'investissement ou du Centre national du cinéma et de l'image animée, avec notamment le crédit d'impôt sur le jeu vidéo. Une aide qui représente 25 à 30% du financement de Big Hammett & Rose.
Sans ces aides, ça serait très très compliqué. Après, la particularité des aides, dans le cas des aides du CNC, du Fonds d'aide aux jeux vidéo, c'est qu'on a toujours une assiette et on ne peut pas avoir plus de 50% qui sont des financements publics. Donc il faut trouver le reste.
Plus concrètement, sur une somme totale de 2 millions d'euros nécessaires à la production d'un jeu par exemple, 1 million pourra au maximum provenir d'aide de l'État.
Le dernier chiffre, c'est 14 000 jeux qui sortent sur Steam chaque année. C'est très très dur d'exister au milieu de toutes ces sorties-là.
La concurrence est rude, mais l'équipe d'Exalted Studio est confiante quant à son succès.
Nous, on est quand même assez confiants parce qu'on a d'excellents retours, parce qu'on a présenté le jeu sur salon, notamment à la Paris Games Week, où du coup, on a plus de 1200 personnes qui ont mis les mains sur le jeu et les retours sont giga super positifs et trop trop bien, donc c'est chouette.
Le jeu est disponible depuis le 6 février, notamment sur PS5, Xbox et Switch.
Maintenant qu'on y voit plus clair dans le financement d'un jeu vidéo, est-ce que les dispositifs de soutien, comme le crédit d'impôt pour le jeu vidéo, sont-ils suffisants pour dynamiser l'industrie en France?
Il y a beaucoup de dispositifs de soutien pour l'industrie en France, et vous avez mentionné le crédit d'impôt pour le jeu vidéo, ça peut être jusqu'à 6 millions pour une entreprise, c'est quand même absolument pas négligeable. Les contreparties qui sont demandées aux entreprises en question sont très faibles. Sauf erreur de ma part, la plupart des entreprises qu'on a mentionnées au début de cette émission en touchent d'une manière ou d'une autre, et pourtant les conditions de travail ne sont pas spécialement bonnes dans chacune d'entre elles. On pourrait se poser la question de conditionner une partie de ces financements au respect du droit du travail, par exemple. Vous avez mentionné dans votre reportage aussi le CNC, on pourrait faire un petit point dessus. Oui, c'est à peu près le deuxième pourvoyeur d'aide aux entreprises, mais il faut savoir que ces aides, elles sont attribuées par, en gros, un conseil qui les valide, qui est constitué quasiment que de patrons du secteur. Donc ce sont des patrons d'entreprises qui s'attribuent des aides entre eux. Ça aussi, c'est un petit peu un entre-soi, un petit peu surprenants qu'on pourrait interroger et qu'on pourrait revoir. Donc la question sur les aides, c'est d'abord de voir comment elles sont distribuées, comment on les conditionne. On peut se poser la question des fortes subventions de studios de jeux vidéo où le droit du travail n'est pas toujours respecté, où les salariés ne sont pas toujours en bonne santé.
Y a-t-il un échange avec le gouvernement pour mettre en place ou améliorer certaines mesures ?
Et on a des contacts et on reviendra dessus potentiellement, mais je ne vais pas développer là-dessus. Par contre, je vais peut-être laisser la parole vite fait aussi à Julie, parce que c'est vrai qu'on a pas mal mentionné un mouvement de grève, mais on n'est pas passé sur les revendications clés, et il nous semble important quand même, avant de conclure, de pouvoir revenir dessus très brièvement.
Oui, bah surtout qu'en fait, on les a un petit peu toutes passées en revue, finalement, en abordant tous les autres sujets. Nous, on porte globalement quatre revendications qui sont sur la sauvegarde de l'emploi et la responsabilisation des patrons qui, justement, sont décisionnaires, mais en général, font porter le poids des mauvaises décisions sur les salariés.
Comme les licenciements.
On a une partie sur la transparence des finances, et ça c'est intéressant que vous le mentionniez justement sur le financement des jeux vidéo, parce que actuellement vous demandez si c'est suffisant pour dynamiser l'industrie. Manifestement, il y a de plus en plus d'investissements étrangers, il y a des rachats, il y a des studios qui se font dissoudre, et en fait, clairement, peu importe que les investissements soient suffisants, ils sont clairement mal utilisés, puisque sinon on ne serait pas dans cet état-là. Il y a une troisième revendication, bien sûr, qui porte sur la réduction du temps de travail et la réorganisation des productions, puisqu'on l'a parlé, on a parlé de harcèlement, on a parlé de risques psychosociaux. C'est bien sûr des sujets qui sont très importants et qui ont un coût humain. Et puis enfin, on a parlé d'un peu plus de démocratie. Le but, c'est effectivement de... voilà, je vous disais qu'il n'y avait pas assez de pouvoir de décision et que c'était les patrons qui étaient en permanence décisionnaires. Aujourd'hui, on a un petit peu envie de dire qu'il y a des gens qui savent faire des jeux vidéo, et ces gens, c'est les gens qui travaillent dans les productions. Donc ce serait bien de leur laisser un petit peu la parole.
Surtout qu'en 2025, il serait peut-être temps qu'il y ait un peu de démocratie aussi dans le monde du travail et en entreprise.
Tout à fait. Et pour finir, nous accueillons Yeltaz qui va nous expliquer comment des joueurs vénézuéliens ont profité d'une faille dans le système monétaire du jeu RuneScape pour convertir l'or virtuel en or réel. Bonjour Yeltaz.
Salut. Alors, nous sommes le 7 mars 2019, vers 21h56 heure française, sur un serveur de RuneScape, un jeu en ligne rassemblant encore 20 ans après sa sortie, une très grande communauté de nostalgiques. Jusqu'ici, tout semble aller pour le mieux. Certains joueurs minent de l'or, d'autres affrontent des dragons, se battent entre eux, bref, une journée parfaitement normale. Mais soudain, des milliers de joueurs disparaissent de la partie en même temps. Ils s'effacent de la carte sans prévenir. Est-ce un bug du jeu ? Est-ce que ces joueurs sont des bots contrôlés par intelligence artificielle ? Non, ce qui rassemble ces joueurs et joueuses bien réels, c'est qu'ils sont vénézuéliens et vénézuéliennes, et qu'à l'instant, leur pays vient de sombrer dans l'obscurité causée par une panne électrique nationale qui va durer 5 jours. Il faut dire qu'en 2019, le Venezuela est déjà enlisé depuis plusieurs années dans une énorme crise. Le pays subit une inflation record, à tel point que la plupart des échanges ne se font plus en bolivar, la monnaie locale, mais en dollars. Résultat, plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et plus de la moitié est en situation d'extrême précarité. Mais alors, que font des milliers de Vénézuéliens sur RuneScape ? Bizarre, d'autant plus que ce jeu de rôle multijoueur en ligne trouve surtout une communauté active en Amérique du Nord ou au Royaume-Uni. En fait, si ces Vénézuéliens jouent à RuneScape, ce n'est pas par passion, c'est justement en réaction à la crise économique que traverse leur pays. Ce jeu, c'est tout simplement leur moyen de survie.
Mais comment un jeu vidéo peut-il devenir un moyen de survie dans la vraie vie ?
Eh bien, parlons argent. Sur RuneScape, on trouve, comme dans la très grande majorité des jeux, une monnaie virtuelle. Ici, c'est l'or. Sur RuneScape, l'or est présent un peu partout. On peut en gagner en l'extrayant des mines, en réalisant des quêtes, etc. Mais ensuite, on peut aussi le vendre sur Internet. On peut échanger une monnaie virtuelle contre des vrais dollars. Alors certes, cette pratique est formellement interdite par Yagex, l'éditeur du jeu. Seulement, pour ce petit studio, la revente d'or est un marché noir difficile à réguler. Ainsi, en consacrant tout son temps et toute son énergie sur le jeu, il y a de quoi se faire plusieurs centaines de dollars par mois. Et au Venezuela, quelques centaines de dollars, c'est une fortune. A titre de comparaison, en 2024, le salaire minimum est toujours d'environ 3,6 dollars mensuels. Tout ça sur un jeu gratuit et sans expérience, ni CV.
Donc, si je comprends bien, le jeu est devenu un métier rentable pour de nombreux Vénézuéliens.
Eh oui, dès la seconde moitié des années 2010, un joueur vénézuélien de RuneScape découvre la faille qui se répand ensuite comme une traînée de poudre. Des centaines de Vénézuéliens se ruent sur un jeu qu'ils ne connaissent pas dans le but de récolter le plus d'or possible. Leur arrivée chamboule les serveurs. Dans un premier temps, cette communauté de néophytes est même embauchée virtuellement. Observant l'arrivée d'une masse inexpérimentée, une guilde de joueurs nommée Reign of Terror y voit une main-d'œuvre parfaite et engage les joueurs vénézuéliens pour réaliser des petites tâches contre un salaire en pièces d'or.
mais en parallèle, la diaspora vénézuélienne continue de s'agrandir et d'apprivoiser les rouages du jeu. Et les coupures d'électricité comme celle de 2019 ne les arrêtent pas. Comprenant qu'ils ont plus à y gagner, les joueurs vénézuéliens décident de se rebeller. En janvier 2020, ils engagent une guerre virtuelle sur une Skype contre leurs employeurs. Face à une armée prête à se battre 24 heures sur 24 pour sa survie, Reign of Terror dépose les armes après plusieurs jours de combat sur les serveurs de RuneScape, laissant un contrôle presque total du jeu à la communauté vénézuélienne, désormais intouchable.
Mais ça paraît presque trop facile. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
En fait, par leur domination sans égale, les joueurs vénézuéliens retrouvent un ennemi qu'ils connaissent bien, l'inflation. En fait, à force de miner toujours plus de pièces, ils ont fait augmenter drastiquement le nombre de pièces d'or en circulation sur le jeu. Or, plus une monnaie circule en grande quantité, plus elle perd de sa valeur. Ainsi, en vendant continuellement 7 or sur Internet, les prix ont baissé, tout comme les revenus des pirates de RuneScape. L'inflation vénézuélienne s'est donc retrouvée à la source d'une inflation virtuelle. Et cette dernière inquiète également Yagex, les éditeurs du jeu. Pour les joueurs ayant acheté des pièces d'or sur Internet, avec les baisses des prix, il est devenu trop facile de devenir riche sur RuneScape. Et au contraire, les joueurs les plus loyaux s'en retrouvent lésés, à cause du règne vénézuélien sur les serveurs. En bref, pour les deux, le plaisir de jeu est réduit.
Est-ce que Jagers est intervenu pour réguler la situation ?
Bien entendu. Finalement, les éditeurs prennent la décision de supprimer les territoires les plus lucratifs de la carte de RuneScape. Cette décision affecte principalement les joueurs vénézuéliens qui deviennent moins puissants. Un grand nombre de ces joueurs sont restés sur les serveurs, car leurs revenus, même divisés par 10, dépassent toujours le SMIC vénézuélien. Néanmoins, l'apogée de ces pirates de RuneScape est bien derrière eux. À présent, il est d'ailleurs difficile de dire ce que sont devenus ces joueurs et ces joueuses, autrefois professionnels malgré eux. Cependant, cette corporation vénézuélienne a clairement posé son empreinte dans l'histoire de RuneScape et même des jeux vidéo multijoueurs en ligne. En bouleversant l'univers d'un jeu aux millions de joueurs, ils sont parvenus à médiatiser la crise économique vénézuélienne auprès d'une communauté mondiale, entraînant même plusieurs œuvres caritatives en faveur du Venezuela. Mais malheureusement pour eux, l'inflation les aura rattrapés jusque dans les mondes virtuels.
Merci beaucoup Yeltaz.
Une dernière question. En tant que joueur, avez-vous déjà exploité les failles d'un jeu afin de progresser plus facilement ?
Est-ce que tu peux répondre ? Ce sera ma réponse.
Ah, franchement, de cette manière-là, non, absolument pas. Et c'est sûr que par contre, j'ai des très bons souvenirs de petite jouer à des jeux vidéo et d'utiliser quelques cheat codes pour faire des choses amusantes, bien sûr.
Très bien. L'autruche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Julie, merci Clément d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci à vous.
Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir suivi notre émission. Et à très vite et bonne journée sur Divergence FM.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère aux volatiles vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un anneau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Non ! C'est embêtant, non ? Les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.